Merci beaucoup d'être branché à Radio Alpha. Aujourd'hui, cela fait 4 mois que le Hamas, organisation islamiste terroriste, a engagé son offensive contre l'État d'Israël depuis la bande de Gaza. Je suis à ce propos en liaison téléphonique avec Shlomo Sand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un historien israélien, vous nous parlez en ce moment même de Tel Aviv et vous avez publié il y a un mois « Deux peuples pour un État » sous-titré « Relire l'histoire du sionisme aux éditions du Seuil », un ouvrage écrit en hébreu et traduit par Michel Bilis. Dans ce livre, Shlomo Sand, vous rappelez que la création d'un État binational a jadis été l'aspiration de nombreux intellectuels juifs, un binationalisme qui, et c'est une idée que vous défendez, aurait empêché le violent et insoluble conflit actuel qui oppose palestiniens arabes à israéliens juifs. La philosophe Hannah Arendt l'avait elle-même prédit à partir de 1948. Elle a adopté une position claire qui affirmait que s'il y avait un État exclusivement juif, il y aurait une guerre tous les 10 ans. Ce livre, Shlomo Sand, Deux peuples pour un État, se propose donc de réfléchir sur la nature des idées binationales et nous permet de redécouvrir l'histoire du sionisme souvent mal connue. Surtout, il rappelle cette chose essentielle, et nous commencerons par là si vous le voulez bien, très tôt, dans l'histoire, une grande partie des colons juifs sionistes s'étaient sentis mal à l'idée de réclamer un État juif dans une région où la plupart des habitants ne l'étaient pas, n'est-ce pas ?
Oui, oui, vous avez résumé très bien mon livre. Oui, je commence avec ça, que dès le début, il y avait des sionistes, le plus grand intellectuel peut-être juif, qui sont émigrés en Palestine, qui ont mis en doute la possibilité de créer un État juif exclusif. Comme les indigènes ne sont pas juifs, et le sionisme ne pourrait pas les inclure dans le projet de futur.
Dans cet ouvrage, vous ne cachez pas votre sympathie pour le paradigme de l'État binational. Comment expliquer que les idées des binationalistes n'aient pas été concrétisées ? Pourquoi ça n'a jamais marché ?
Ah oui, il y a toujours des bonnes raisons. C'est-à-dire, vous devez savoir que dans les projets sionistes, il y avait beaucoup de tendances. Et dans le livre, j'ai mis en accent les tendances des grands intellectuels comme Martin Buber, Hannah Arendt et des autres qui ont réfléchi et ils ont décidé que créer un État juif dans une région arabe et surtout que les indigènes ne sont pas juifs, ne peuvent pas être inclus dans ce projet, ce n'est pas possible. Mais ils étaient minoritaires parce que, si vous voulez, l'idée de souveraineté juive, d'un État juif, après Théodore Herzl qui a écrit justement l'État des Juifs, était dominant. Maintenant, c'est clair que la conflictualité avec les indigènes a créé une certaine haine entre les deux communautés qui commençaient à constitué dans la région. Donc cette haine, cette conflictualité, vous devez savoir, moi, Shlomo Sand, j'étais né dans un camp de réfugiés en Europe et on m'a amené à 2 ans vivre, si vous voulez, à Jaffa. Et j'ai vécu dans un petit appartement des Arabes palestiniens qui sont fuis vers Gaza. Donc, si vous voulez, j'ai grandi pendant 18 ans jusqu'à l'armée dans ce petit appartement de quelqu'un qui est devenu réfugié. Donc, on est venu, on a poussé notre population. C'est une bonne raison d'une conflictualité permanente. Et c'est la raison que je crois que l'idée des grands intellectuels juifs comme Gershon Scholem, Martin Buber, Magnus ne pourrait pas se réaliser à cause de cette conflictualité permanente entre des colons. Nous étions des colons. Et même qu'on a resté réfugiés, mais on était des réfugiés colons. Et ceux qui ont dû quitter leur maison, leur terre, pour fuir vers Gaza, vers Cisjordanie, etc. C'est la raison que ces belles idées de binationalité ne pourraient pas se réaliser à travers l'âge.
Vous n'y croyez plus?
Ah non, non, c'est-à-dire, vous devez savoir, dès que je retournais en 67 de la guerre, de la première guerre, j'ai participé en 67 à Jérusalem, et j'ai lutté pour 2 États, une à côté de l'autre. C'est-à-dire, pendant 56 ans, j'ai été dans toutes les manifestations, j'ai écrit énormément d'articles pour qu'Israël quitte le territoire occupé, dit occupé, de 67, et laisser bâtir là-bas un État palestinien. Je crus que 2 États, c'est la meilleure solution. 2 États, un État israélien et un État palestinien. Je crus jusqu'à il y a 2 ans que par la lecture des grands sionistes de gauche, pacifistes, et par aussi le fait que les 2 sociétés s'est intégrées plus en plus à cause de cette occupation de 1607 que j'ai arrivé à la conclusion que je ne crois pas qu'on peut séparer les deux communautés. On ne peut pas séparer. Et c'est la raison que j'ai commencé à réfléchir qu'il y ait peut-être des amis à moi qui ont toujours réclamé une sorte de fédération ou confédération entre deux communautés nationales, comme les communautés israéliennes et les communautés palestiniennes. C'est la meilleure solution à cause qu'on est tellement attachés l'une à l'autre. Il faut regarder les cartes démographiques et voir qu'on ne peut pas vraiment partager les deux communautés. Aujourd'hui, entre la mer et la rivière, il y a deux communautés avec le même chiffre des habitants, c'est-à-dire il y a 7,5 Israéliens, il y a 7,5 Palestiniens dans cette petite pièce. On ne peut pas les séparer, je ne trouve pas un moyen, et je ne crois pas qu'on peut laisser un État palestinien indépendant. L'autorité à Ramallah, c'est-à-dire où se trouve Abbas, etc., ça me rappelle plutôt Vichy qu'un État qui va devenir indépendant dans quelques années. Voilà, c'est un petit État de Vichy. Et la majorité, c'est-à-dire la majorité des habitants en Cisjordanie, ne croit pas à cet État sous l'autorité d'Abbas et de Fatah et de PLO. C'est la raison que, plus en plus, j'arrivais à préférer une recherche de solutions différentes. C'est-à-dire, dans les deux communautés qui sont tellement violentes, tellement dures les unes envers les autres, il faut commencer à apprendre pas à pas comment vivre ensemble. Pas parce qu'on commence à aimer, mais qu'on n'a pas le choix. Ou une guerre permanente, ou une paix avec beaucoup de concessions entre deux communautés. Et voilà, je suis arrivé à la conclusion qu'on ne peut pas séparer complètement les deux communautés. Et il faut lutter et écrire et dévoiler l'histoire binationale. Parce qu'en vérité, en quoi on parle? Israël a occupé les Cisjordanie et les Gaza il y a combien? 56 ans, 57 ans. Et en réalité, nous vivons dans une sorte d'un État binational sans aucune égalité entre les deux communautés. Je voudrais transformer cette existence binationale à un régime plus égalitaire entre nous et les Palestiniens. Et j'insiste, je ne crois pas qu'un État juif exclusif peut continuer à vivre en Proche-Orient. Après les événements du 7 octobre, c'est clair, oui, hors guerre permanente, liquidation répétée de l'une et de l'autre, hors une recherche différente de notre existence ensemble sur cette terre. S'il vous plaît, toutes les gens qui nous écoutent, regardez le quart démographique de cette région. Regardez qu'entre la mer et la rivière, on ne peut pas vraiment bâtir deux États indépendants. Et on peut prendre Jérusalem, qui en arabe on l'appelle El-Quds. Oui, on ne peut pas séparer Jérusalem. Et Jérusalem ne peut pas être la capitale seulement des Israéliens. Il doit être aussi la capitale des Palestiniens.
Shlomo Sand, aujourd'hui, Israël est-il un État d'apartheid?
Oui, c'est-à-dire, je ne suis pas la première et je ne crois pas que je serai la dernière. Vous savez, dans le début de mon livre, dans l'édition française, j'ai mis les propos de Tamir Pardo. Qui est Tamir Pardo? C'est l'ancien chef de Mossad. Je crois que tous les gens qui nous écoutent savent qu'est-ce que c'est le Mossad. C'est un personnage incroyable qui a déclaré, après qu'il a démissionné de sa fonction de chef de Mossad, il a dit, en réalité, il y a une apartheid au Cisjordanie. Si les gens qui n'ont pas les droits vivent à côté des gens qui ont des droits différents, on ne peut pas ne pas appeler une apartheid. Les Palestiniens n'ont pas vraiment des droits égaux avec les Israéliens en Cisjordanie. En Cisjordanie, il y a déjà 800 000 colons israéliens qui vivent sous un régime juridique israélien. À côté d'eux, les Palestiniens n'ont pas aucun droit, ni politique, ni juridique, et ni civique. Et je crois qu'il faut être d'accord avec Tamir Pardo, qui a dit, voilà, ça c'est un régime d'apartheid. Il ne ressemble pas complètement à un régime sud-africain, mais c'est un régime d'apartheid.
Un tiers des ministres israéliens a participé le 28 janvier dernier à une manifestation à Jérusalem appelant au rétablissement des colonies juives dans la bande de Gaza. Les colons sont-ils avant tout au pouvoir en Israël ?
Ils ont beaucoup de pouvoir dans l'opinion publique, évidemment. Et aussi, ça c'est important, ils ont pouvoir aujourd'hui dans le gouvernement israélien, qui est un gouvernement de droite. C'est-à-dire, je ne crois pas dans la situation actuelle que quelqu'un en Israël peut arracher la plupart des colons dans les territoires occupés. C'est pas possible, à mon avis. Il faut trouver des autres moyens. C'est une des raisons que je parle sur une sorte de fédération comme solution. Mais le plus important pour moi, comme Israélien, c'est lutter pour les plus en plus d'égalité entre moi et les Palestiniens qui ont vécu justement sur cette terre que je vis aujourd'hui avant moi. Si on ne trouve pas une base plus égalitaire qu'actuellement, je crois que les tragédies vont suivre plus en plus. Et le 7 octobre ne sera pas une chose exceptionnelle.
Shlomo Sand, l'Europe est-elle responsable des atrocités en Palestine ? Est-ce que c'est l'Europe qui a vomi les Juifs sur les Arabes de Palestine ? Je reprends un terme brutal, mais qui est le vôtre dans votre ouvrage.
Oui, c'est un terme brutal. Je m'excuse pour beaucoup des oreilles des Européens. Mais c'est un fait. Ce n'est pas le monde arabe qui a vomi ces Juifs avant 1948. C'est le monde d'Europe. C'est commencé en l'Empire russe, avec tous les pogroms, qui a poussé les Juifs russes, lituaniens, ukrainiens et polonais d'aller plus en plus loin vers les États-Unis. Et dès que la porte des États-Unis s'est fermée, ils étaient coincés. Ni la France, ni la Grande-Bretagne. Personne ne voulait pas les accueillir. Ni avant la Shoah, ni après la Shoah. Vous savez, moi, j'étais né à 46, mais ma famille était en Allemagne. Deux ans, on a vécu dans un camp de réfugiés. Mmh. Personne ne voulait pas accepter. Et mon père a demandé. Il voulait venir en France d'avoir une nationalité française, mais personne n'a pas pensé donner des Juifs. Donc, j'ai pu utiliser les verbes un peu, comment dire, un peu bruts. L'Europe nous a vomi sur les Arabes de Palestine. Et l'Europe nous a vomi parce qu'ils ne voulaient pas, les Grande-Bretagne ne voulaient pas accepter les Juifs qui sont venus. Et je parle avant la Deuxième Guerre mondiale. On ne voulait pas accepter les Juifs. Donc, si vous voulez, les bases du sionisme n'étaient pas les grands mythes qu'on était ici il y a 2000 ans. Pour moi, c'est important aujourd'hui. Et je demande les gens autour de moi, comment vous qui réclamez que vous êtes été arraché il y a 2000 ans, et c'est une légende évidemment, et c'est un mythe, mais vous réclamez le fait que vous avez été arraché il y a 2000 ans de cette terre, de cette petite terre de Palestine, et vous ne pouvez pas comprendre les Palestiniens qui disent qu'ils étaient arrachés il y a 75 ans. Ils étaient arrachés il y a 75 ans. Justement, je vous avais dit, jusqu'à 18 ans, j'ai habité dans un petit appartement des Arabes qui ont fui vers Gaza. Mmh. Je me demande, est-ce que dans ce petit appartement, il y avait des enfants qui ont grandi à Gaza ? Et hélas, peut-être ils ont participé à ce terrible massacre de 7 octobre. Je me demande, comment c'est possible de continuer avec, si je sais que j'ai poussé des autres pour venir ici, peut-être que je n'ai pas eu de choix, mais le futur dit que j'ai un choix. Vivre différemment avec ceux qui ont vécu ici avant moi. Si on ne va pas chercher une certaine vision différente, je ne crois pas, et je crois que Hannah Arendt a eu raison de dire. Et Magnus, celui qui a fondé l'université hébraïque de Jérusalem, et Martin Buber, je parle sur des juifs, pas seulement sionistes, mais religieux aussi, croyants aussi, qui ont dit que les indigènes, c'est les conditions, c'est-à-dire intégrer les indigènes, c'est sine qua non les conditions de continuer à vivre en Proche-Orient. Et je crois en profondeur que si on ne cherche pas des moyens, si c'est fédération, si c'est confédération, si c'est une autre chose, je ne suis pas contre deux États, je ne crois pas. Et d'ailleurs, si je regarde la vie des Arabes qui vivent en Israël, c'est vrai, sans égalité, parce que l'État s'est défini comme juif et pas israélien. C'est-à-dire, ce n'est pas inclusive, l'aide. Ça appartient plus aux Juifs qui habitent à Paris qu'à mes collègues à l'université. Mais je voudrais que cet État va devenir leur État aussi. Avant qu'on constitue une certaine chose, un État fédératif, comme en Belgique, comme en Suisse, comme en Grande-Bretagne, etc. Il y a beaucoup, c'est-à-dire Canada aussi. Je ne crois pas que c'est facile. Et dans mon livre, la fin est très, très pessimiste. Mmh. J'ai écrit le livre avant la catastrophe de 7 octobre.
Votre livre n'aurait été que plus sombre encore si vous l'aviez rédigé après le 7 octobre.
Oui. De toute façon, j'ai averti les lecteurs qu'avant qu'on arrive à cette dite utopie d'un État fédératif, binational, on va passer une catastrophe. Je n'ai pas à penser sur le 7 octobre, mais j'ai dit dans la conclusion qu'avant d'arriver, probablement, on aura besoin d'autres catastrophes qui convaincre les deux communautés. Et une chose importante, pour vaincre le Hamas, ce n'est pas suffit les armes. Il faut une autre vision de nous-mêmes et des autres à côté de nous. Oui, il y a beaucoup d'utopie dedans, mais il ne faut pas oublier que moitié de la population en Israël, moitié, leurs parents et leurs grands-parents ont parlé arabe. Moitié des Juifs qui habitent en Israël, leurs parents ont les grands-parents. Et ça, c'est important de comprendre, ils ont parlé arabe. Ben-Gvir, les ministres à ce gouvernement de droite, une des extrêmes, les plus extrêmes, et ses parents et ses grands-parents ont parlé arabe. Il faut comprendre qu'en profondeur, il y a quelque chose de commun. C'est-à-dire, nous avons des bases de commencer à créer une culture commune entre nous et les Palestiniens. Et sinon, je ne crois pas qu'on va exister en Proche-Orient.
Shlomo Sand, l'autre guerre menée par Israël, en plus de la bande de Gaza, c'est la Cisjordanie, Tsahal, l'armée israélienne, y multiplie les opérations coup de poing.
Oui, si on regarde la dernière année, combien de jeunes, plus jeunes que 18 ans, étaient tués en Cisjordanie, c'est terrible.
Eh bien, j'ai quelques chiffres depuis le 7 octobre dernier. Par exemple, 367 personnes ont été tuées en Cisjordanie, dont 94 enfants selon les Nations Unies. Un chiffre qui doit être mis en perspective avec celui de l'année précédente qui atteignait déjà 195 morts et souligne donc le fait que les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie avaient déjà commencé en 2022.
Oui, vous confirmez. Ce n'est pas, on peut pas. Et ces gens qui étaient tués, ils ont des parents, ils ont des amis, ils ont des. Vous savez, c'est pas possible. Ils vont continuer à résister parce qu'on voit partout. Si les gens n'ont pas les droits, ni civiques, ni juridiques, ni politiques, ils vont se révolter. Ils vont se révolter avec violence. L'oppression israélienne ne change pas. On ne pourra pas éviter cette situation que les gens habitent une à côté de l'autre sans égalité. Pardon, excuse-moi.
Selon certains spécialistes, je pense notamment à Pierre Razou, Benjamin Netanyahou chercherait à faire durer les combats à Gaza pour sa survie politique et serait même prêt à ouvrir de nouveaux fronts, comme dans le sud du Liban contre le Hezbollah. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à cette hypothèse?
Vous savez, ça peut être vrai. Je suis hésitant, comme historien, de mettre de hypothèses sur l'actualité cette façon-là. Mm-hmm. Probablement, c'est vrai, mais j'hésite de confirmer ça parce qu'avec Bibi Netanyahu, vraiment, on ne peut pas savoir. C'est un personnage politique inattendu que je ne les soutiens pas, évidemment. Mais avec ces hypothèses, chaque jour, il y a des autres hypothèses avec ça. Moi, je vois une chose importante, que le gouvernement israélien, pour le moment, ne se presse pas de régler les problèmes de kidnapper, ne se presse pas d'arrêter cette guerre. Et en vérité, ils n'ont pas vraiment un projet politique, sauf la revanche, qui peut être compréhensible sur le niveau personnel. Un État ne peut pas agir seulement avec une revanche, vous comprenez? Donc je ne sais pas la motivation que la guerre se dure comme ça, mais les motivations ne sont pas seulement personnelles de la part de Bibi Netanyahu. Je crois qu'une grande partie de la société israélienne cherche la revanche à cause de cette coup sévère de 7 octobre.
Pour décrire la situation dans la bande de Gaza, vous parlez non pas de génocide, terme, je le rappelle ici, inventé par Raphaël Lemkin en 1943, mais vous parlez plutôt de domicide. Expliquez-nous.
Je suis assez dur en face des conduits de gouvernement israélien au Gaza. Oui, je crois que c'est impossible les actes que nous commettons là-bas. Mais on ne sait pas. Je crains qu'il y aura un génocide, mais il n'y a pas un génocide. C'est-à-dire, le but des armées israéliennes, ce n'est pas de liquider les gens en place. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'histoire ne connaît pas beaucoup de génocides. Il y a les grands génocides des Deuxième Guerre mondiale, il y a les génocides arméniens, il y a les génocides à Rwanda. Vous savez en quoi je parle.
Oui.
Oui. Mais les autres cas, et il y a beaucoup de cas, on a tué des milliers, des millions. C'est-à-dire que les Américains ont tué presque 1 million en Vietnam. Ce n'était pas un génocide, c'était une partie de cette conflictualité des États-Unis avec le Viet Cong. Et maintenant, il y a beaucoup de morts, comme nous savons, terribles. Je ne crois pas que le but, c'est-à-dire Israël veut se débarrasser des Palestiniens à Gaza, mais sur l'ordre du jour, il n'y a pas un génocide, de liquider la population à Gaza. Pour le moment, hein, il n'y a pas qu'un projet, qu'une volonté de liquider. Mais par contre, on détruit Gaza, on détruit toutes les maisons à Gaza. Et il faut regarder les photos, c'est terrible. Comment les vont vivre les années prochaines là-bas. Donc, d'homicide, si vous voulez, le fait que systématiquement, on détruit aujourd'hui toutes les maisons à Gaza. Une façon désespérée, bête et méchante.
Pourquoi la communauté internationale n'intervient-elle pas, selon vous? Tout cela se passe aux yeux du monde.
Ici, on va entrer dans une autre analyse. Et les Américains ne veulent pas vraiment arrêter cette guerre, à mon avis. Mm-hmm. Ils pourraient forcer Israël. Mais ici, entre une analyse des Proche-Orient globale, Iran, Saoudi et les autres pays. C'est compliqué pour. Mais si vous voulez, je peux ouvrir la discussion sur le fait que. Des conflictualités avec l'Iran, entre
Allons-y.
Les Saoudis et l'Iran.
Allons-y.
Et tout ça. Et donc, je voulais dire comme ça. L'Iran, c'est le pire régime autoritaire au Proche-Orient, mais au point de vue des conflictualités extérieures, il est un des régimes autoritaires les plus prudents que je connais. Par contre, vous savez que le fait que les Américains peuvent agir, avoir des armées en Irak, en Syrie, ça rassemble quelque chose de naturel au monde. Hein? Il y a des militaires américains en Syrie, en Irak. Moi, je ne vois pas ça légitime, si vous voulez. Bon, cette conflictualité et surtout cette peur que Saoudia va être touchée par cette, comment dire, comportement des Iraniens et fait que si on concentre tout sur le Gaza et les conflictualités palestino-israéliennes, pour le moment, c'est vite une autre conflictualité beaucoup plus grande. Mm-hmm. Je n'entre pas en détail, parce que c'est une analyse beaucoup plus profonde, si vous voulez, que les conflictualités entre l'Iran et le Saoudi et l'avenir de cette région. Vous comprenez? Les Saoudiens ont peur. Ils ont peur que cette radicalité islamique qui apporte le Hamas sera comme ceux des talibans, parce que Hamas, ce n'est pas Daesh, il faut comprendre ça. Pas seulement qu'il ne commet pas des actes terroristes comme Al-Qaïda et Daesh en Europe ou en États-Unis, mais hélas, ils ont un soutien profond, populaire de la part des Palestiniens et un soutien très fort de la part de beaucoup des Arabes en Proche-Orient. C'est-à-dire, si je dois comparer Hamas, je le compare plutôt aux talibans. Et vous savez, les Soviétiques ont pris ça très vite, et après les Américains ont pris ça très vite, que si vous luttez contre un mouvement islamique radical, bien sûr, mais qui a un soutien populaire profond, c'est difficile de l'arrêter. Et on a vu ça en Afghanistan. Donc je dis que la conflictualité au Proche-Orient a une grande part de toutes les étapes maintenant de conflictualité israélo-palestinien. L'une est accrochée à l'autre et dépend de l'autre. Bon, les Américains, je crois, d'un côté, ne veulent pas que la guerre d'Israël à Gaza dépasse certaines limites. De l'autre côté, ça les sert bien, cette conflictualité, pour attirer l'attention sur les attentions d'Iran, sur le danger d'Iran, etc. Donc, je ne crois pas que j'ai expliqué tout, mais je dis que ces demandes exigent une analyse beaucoup plus large que je n'ai pas le temps de les exposer maintenant.
Et merci déjà pour cette explication. Je rappelle donc, pour clôturer cet entretien, Shlomo Sand, que nous sommes donc à 4 mois exactement après le début du conflit au Moyen-Orient et que le président de la République, Emmanuel Macron, s'apprête dans quelques instants à rendre hommage aux 42 victimes françaises des attaques qui ont frappé Israël, ainsi qu'aux 3 Français qui demeurent encore, à l'heure où je vous parle, disparus et présumés otages. Ce sera ma dernière question, Shlomo Sand. Les Juifs et les Arabes sont-ils condamnés à vivre les uns à côté des autres, ou plutôt les uns dans les autres ?
Vous savez, non, on ne pourra pas vivre l'un à côté des autres. Ceux qui nous écoutent doivent savoir que dans l'État Israël, dans les frontières de 67, il y a plus de 10 millions d'Arabes. 2 millions d'Arabes à côté de 7 millions juifs. Donc on vit une dans l'autre. Pas seulement en Cisjordanie, pas seulement demain à Gaza. Et aussi en Israël, il y a 2 millions. Je travaille avec des collègues arabes qui ont des inspirations aussi nationales. Et demain, j'imagine, avec ce gouvernement de droite, Israël peut essayer d'installer des colons, même à Gaza. Donc, en place de dire qu'il faut séparer, parce qu'on ne peut pas séparer et les deux communautés, il faut apprendre à vivre une à côté de l'autre, mais avec des formes de collaboration, plus en plus. Je crois que chaque enfant israélien doit apprendre l'arabe. Chaque enfant palestinien doit apprendre l'hébreu. Voilà mon utopie.
Votre utopie est donc la construction d'une paix politique. Merci beaucoup, Shlomo Sand, d'avoir accepté cet entretien ici sur Radio Alpha. Je rappelle le titre de votre livre. Il s'appelle « Deux peuples pour un État ». C'est sous-titré « Relire l'histoire du sionisme ». C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup et une excellente journée.
Merci. Merci à vous.